24. Il manquait une personne autour de la table. Il n'était pas de tradition d'attendre lorsqu'un orateur était en retard, et, songea Chandès, la table n'était pas non plus d'humeur à attendre, de toute façon. Storj Andibal était le plus jeune du conseil, et il n'avait sans aucun doute pas suffisamment conscience de ce fait. Il se comportait comme si la jeunesse était en soi une vertu et l'âge une affaire de négligence de la part de ceux qui auraient mieux gagné à faire attention. Jandibal n'était pas populaire auprès de ses collègues. Et pour tout dire, Chandès lui-même ne le portait pas spécialement dans son cœur. Mais la question n'était pas là. Delora Delarmy l'interrompit au milieu de sa rêverie. Elle le contemplait de ses grands yeux bleus, dissimulant, sous son visage rond, l'air comme toujours innocent et amical, un esprit acéré et une concentration féroce. Elle dit avec un sourire « Premier orateur, allons-nous attendre ?» La réunion n'avait pas encore officiellement débuté, si bien qu'elle pouvait, à strictement parler, entamer la conversation quand tout autre qu'elle aurait attendu que Chandès, de droit, parle le premier. Chandès lui jeta un regard désarmant, malgré cette légère entorse à l'étiquette. « En temps normal, nous n'aurions pas attendu, oratrice Delarmy, mais puisque la table se réunit tout exprès pour entendre l'orateur Jandibal, il semble judicieux de tourner la règle. » « Et où est-il donc, premier orateur ?»«
Cela, oratrice Delarmy, je l'ignore. »
Delarmy consulta les visages rassemblés autour de la table. Aurait dû se trouver présent le premier orateur et 11 autres collègues, rien que 12 orateurs au total. En 5 siècles, la seconde fondation avait vu s'accroître ses pouvoirs et ses responsabilités, mais toutes les tentatives pour agrandir la table au-delà de 12 s'étaient soldées par des échecs. 12 ils avaient été après la mort de Seldon, quand le deuxième des premiers orateurs, Seldon s'était lui-même toujours considéré comme le premier de la liste, avait instauré la table, et 12 ils étaient encore. Pourquoi 12? C'était un nombre qui se divisait sans peine, en groupes de taille identique. Il était assez réduit pour permettre une consultation en bloc et assez large pour autoriser le fonctionnement de sous-groupes. Plus le conseil aurait été trop peu maniable, moins trop inflexible. Telles étaient les explications. En fait, nul ne savait vraiment pourquoi ce nombre avait été choisi, ni pourquoi il devrait rester immuable. Mais enfin, même la seconde fondation pouvait se trouver esclave de la tradition. Il ne fallut à Delarmy qu'un éclair pour jouer avec la question, tandis qu'elle scrutait les visages et les esprits les uns après les autres pour s'arrêter enfin, sardonique, au siège vide, le siège du cadet. Elle n'était pas mécontente que Jandibal ne recueille aucune sympathie. À ses yeux, le jeune homme avait autant de charme qu'un mille-pattes et devait être traité en conséquence. Jusqu'à présent, seuls son talent et ses capacités indiscutables avaient empêché qu'on ne propose ouvertement son expulsion. Deux orateurs seulement avaient été destitués, mais non condamnés, dans tout le demi-millénaire d'histoire de la Seconde Fondation. Ce mépris affiché toutefois pour la table, en manquant une de ses réunions, était pire que bien des infractions. Et Delarmy sentit non sans déplaisir que le climat virait très nettement dans le sens favorable au procès.
« Premier orateur, dit-elle, si vous ignorez où se trouve l'orateur Jandibal, je serais ravi de vous l'apprendre. »«
Oui, oratrice. » »«
Qui parmi nous ignore encore que ce jeune homme ?»
Parlant de lui, elle se garda d'utiliser tout titre honorifique, ce que personne ne put manquer de noter.
« Est à longueur de journée occupé du côté de chez les Choyens. Ce qui peut bien l'occuper là-bas, je ne veux pas le savoir. Mais en tous les cas, il est parmi eux, et c'est une occupation manifestement assez importante pour prendre le dessus sur cette réunion de la table.
« Je crois bien, »
intervint un autre orateur,
« qu'il fait tout simplement de la marche ou de la course en guise d'exercice physique. »
Delarmy sourit à nouveau. Elle adorait sourire. Ça ne lui coûtait rien.
« L'université, la bibliothèque, le palais et toute la région avoisinante sont à nous,
C'est peu, certes, comparé à l'ensemble de la planète, mais on y a assez de place, ce me semble, pour y faire de l'exercice. Premier orateur, ne pourrions-nous pas commencer ?
Le premier orateur soupira intérieurement. Il avait tout pouvoir pour faire attendre la table, voire pour ajourner la réunion en attendant le moment où Jean Dibal serait présent. Aucun premier orateur, toutefois, ne pouvait durablement travailler sans heurts s'il n'avait au moins le soutien passif des autres orateurs, et il n'était jamais conseillé de les froisser. Même Prime Palver avait à l'occasion dû les manier par la flatterie pour les plier à ses vues. D'un autre côté, cette absence de Jean Dibal était bien ennuyeuse, même pour le premier orateur. Il faudrait bien qu'un jour, le jeune orateur comprenne qu'il ne faisait pas la loi à lui tout seul. Et parlant à présent au premier orateur, Chandès prit effectivement le premier la parole pour annoncer
« Nous allons commencer ».
L'orateur Jean Dibal a présenté quelques conclusions surprenantes déduites des données du premier radiant.
Il croit à l'existence d'une organisation travaillant plus efficacement que la nôtre au maintien du plan Seldon, organisation qui agirait ainsi pour des raisons qui lui sont propres. Nous devrions en conséquence essayer d'en savoir plus à son sujet par simple souci d'autodéfense. Vous avez tous été informés de cela, et la présente réunion est simplement destinée à vous permettre d'interroger l'orateur Jean Dibal afin que nous puissions tirer quelques conclusions quant à notre politique à venir.
En fait, il n'eût pas été nécessaire d'en dire autant. Chandès gardait l'esprit totalement ouvert, comme ils le savaient tous. S'il parlait, c'était par pure courtoisie. Delarmy consulta du coin de l'œil les 10 autres. Tous semblaient bien contents de lui laisser le rôle de porte-parole des anti-Jean Dibal. Elle dit
« Pourtant, Jean Dibal,
là encore elle omit son titre, ignore ou reste incapable de nous dire quelle est ou qui est cette autre organisation. » Elle avait manifestement énoncé la chose comme une affirmation, ce qui frisait la grossièreté. C'était comme de dire « Je sais analyser votre esprit, inutile de vous fatiguer à l'expliquer. » Le premier orateur nota cette incorrection et décida simplement de passer outre. Le fait que l'orateur Jean Dibal, il évita soigneusement d'omettre son titre, mais sans vouloir s'attarder à le souligner, ignore ou ne sache dire quelle est cette organisation, ne signifie pas pour autant qu'elle n'existe pas. Durant la majeure partie de leur histoire, les gens de la première fondation n'ont virtuellement rien su de nous, et en fait, continuent quasiment à n'en rien savoir encore aujourd'hui. Mettriez-vous en doute notre existence ?
Delarmy riposta. Il ne s'ensuit pas sous prétexte que nous, nous existons incognito, que pour qu'une chose existe, il lui suffise simplement d'être inconnu.
Et elle partit d'un rire léger. Assurément. C'est bien pourquoi l'on doit examiner avec soin l'assertion de l'orateur Jean Dibal. Elle se fonde sur une démonstration mathématique rigoureuse que j'ai pris moi-même la peine de vérifier et que je vous engage tous vivement à examiner. Elle n'est... Il chercha la tournure appropriée à son état d'esprit. Pas peu convaincante.
Et ce premier fondateur, Golan Trévise, qui hante votre esprit, et que vous ne mentionnez pas. »
Encore une attitude grossière, et cette fois le premier orateur rougit légèrement.
« Qu'en est-il de lui ?»
L'idée de l'orateur Jean Dibal est que cet homme, Trévise, serait l'instrument, peut-être inconscient, de cette organisation, et que nous ne devrions pas le négliger. Delarmy se rencogna sur son siège et dit, écartant de ses yeux une mèche grise,
si cette organisation, quelle qu'elle soit, existe effectivement, si ses pouvoirs mentaux la rendent dangereusement puissante, et si elle se cache si bien, est-il crédible qu'elle décide d'agir aussi ouvertement en manœuvrant quelqu'un d'aussi peu discret qu'un conseiller de la première fondation en exil ?
On pourrait estimer que non, dit le premier orateur. Et pourtant, j'ai noté un détail particulièrement inquiétant et que je ne comprends pas. Presque involontairement, il enfouit l'idée dans son esprit, honteux que les autres pussent la découvrir.
Chacun des orateurs remarqua cet acte mental et, comme il était de rigueur, respecta cette honte. Delarmy aussi, mais en marquant toutefois son impatience. Elle dit, employant la tournure requise, « Peut-on vous demander de nous faire part de vos pensées, puisque nous comprenons et partageons toute honte que vous seriez susceptible d'éprouver ?»«
Comme vous, je ne vois pas ce qui devrait laisser supposer que le conseiller Trévise a été l'outil de l'autre organisation, ni quel but il pourrait bien servir s'il en fait bien partie. Pourtant, l'orateur Jean Dibal semble sûr de son fait, et nul ne peut ignorer la valeur de l'intuition de quiconque a obtenu le rang d'orateur. J'ai par conséquent tenté d'appliquer le plan à Trévise. »
« Un seul individu ?»
s'exclama à mi-voix l'un des orateurs, tout en prenant sur le champ un air contrit pour avoir accompagné sa question d'une pensée qui était clairement l'équivalent de « quel idiot !»«
À un seul individu, oui, » répéta le premier orateur. « Et vous avez raison. Quel idiot je fais. Je sais très bien que le plan ne peut valablement s'appliquer aux individus, pas même à des groupes d'individus. Malgré tout, j'étais curieux. J'ai extrapolé les intersections interpersonnelles bien au-delà des limites raisonnables, mais je l'ai fait de 16 manières différentes et en choisissant une région de préférence à un point. J'ai ensuite exploité tous les détails que nous détenons sur Trévise, un conseiller de la première fondation ne passe pas entièrement inaperçu, et sur le maire de la fondation. J'ai finalement réuni le tout, plus ou moins, au petit bonheur la chance, j'en conviens.
Il se tut. « Eh bien ?» demanda Delarmy. « Je crois comprendre que les résultats vous ont surpris ?»«
Il n'y a pas eu le moindre résultat, comme vous pouviez vous y attendre. On ne peut aboutir à rien avec un seul individu. Pourtant, j'ai passé 40 années à analyser des résultats. Et j'ai pris l'habitude d'avoir de nettes présomptions avant même le début de l'analyse. Et ces présomptions m'ont rarement trompé. Dans le cas présent, même s'il n'y a pas eu de résultat, j'ai eu la nette impression que Jean Dibal avait raison. Et que Trévise ne devrait pas être laissé à lui-même. «
Pourquoi pas, premier orateur ?» demanda Delarmy, manifestement décontenancé par la vigueur des sentiments du premier orateur.
« J'ai honte, » dit ce dernier, « de m'être laissé tenter à employer le plan pour un usage auquel il n'est pas destiné, et j'ai honte à présent de m'être laissé influencer par une simple intuition. Et pourtant, j'y suis bien obligé, tant cette intuition est forte. »
Si l'orateur Jean Dibal a raison, si un danger venu d'une direction inconnue nous guette, alors j'ai le sentiment que le jour où surviendra chez nous une crise, c'est Trévise qui détiendra et qui jouera la carte décisive.
« Sur quoi fondez-vous ce sentiment ?»
demanda Delarmy choqué. Le premier orateur consulta la table, l'air désolé.
« Sur rien. » Les équations de la psychohistoire ne donnent rien. Mais en observant le jeu des interrelations, il m'a semblé qu'effectivement Trévise était la clé de toute chose.
Il convient de prêter la plus grande attention à ce jeune homme. 25. Jean Dibal savait qu'il ne reviendrait jamais à temps pour assister à la réunion du conseil. Il se pouvait même qu'il ne revienne pas du tout. On le maintenait avec fermeté, et il essaya désespérément de voir comment il pourrait bien les forcer à le relâcher. Ruffiron se tenait maintenant devant lui. Il exultait.
« Alors, on est prêt, chercheur? Œil pour œil, dent pour dent, à la choyenne, allez, vas-y! C'est toi le plus petit, cogne le premier !»
Mais Jean Dibal répondit. « Quelqu'un va-t-il te tenir, alors? Tout comme on me tient?
Lâchez-le! Non. Les bras seulement. Lâchez-lui les bras, mais tenez-lui bien les jambes. Plus question de danser. »
Jean Dibal se sentit cloué au sol. Ses bras étaient libres.
« Allez, cogne, chercheur. Frappe-moi. »
Et là, l'esprit en alerte de Jean Dibal discerna soudainement une réaction. De l'indignation, un sentiment d'injustice et de pitié. Il n'avait pas le choix. Il allait devoir courir le risque de se concentrer, puis d'improviser à partir de... à besoin. Il n'avait pas touché ce nouvel esprit et malgré tout, il réagissait selon ses vœux. Exactement. Il prit soudain conscience de la présence d'une petite silhouette, râblée, de longs cheveux bruns emmêlés, les bras lancés en avant, qui débouchait comme une folle dans son champ de vision pour repousser avec violence le premier choyen. La silhouette était celle d'une femme. Jean Dibal nota sombrement à quel point il pouvait être tendu et préoccupé pour ne pas avoir remarqué cette présence avant que ses yeux ne la lui révèlent.
« Carole Ruffiron !»
glapit la femme.
« Acré grand lâche coup pour coup à la choyenne, hein? T'es deux fois de sa taille! T'serais bien pu en peine de t'en prendre à moi! T'serais donc fier d'esbigner de cette pauvre mioche? C'est-y point de la honte que je m'a dit? Vous m'a tous le montré du doigt en racontant partout, t'in, v'la Ruffiron, le fameux écrasemôme! Ah, sera ridiculisé que je me suis dit comme ça, même qu'aucun choyen voudra plus boire avec toi et qu'aucune choyenne voudra plus rien avoir à faire avec toi !»
Ruffiron essaya d'endiguer ce torrent, parant les coups qu'elle lui assénait tout en cherchant bien en vain à placer un lénifiant
« Voyons, Soura, voyons, Soura !»
Jean Dibal sentit que les mains ne le retenaient plus, que Ruffiron avait cessé de le regarder et que plus personne ne songeait à s'occuper de lui. Soura la première, toute sa fureur était entièrement polarisée sur Ruffiron. Ayant repris ses esprits, Jean Dibal cherchait à présent le moyen d'entretenir cette fureur, de renforcer la gêne honteuse qui avait envahi l'esprit de l'homme, et de réaliser le tout avec assez de délicatesse et de talent pour ne laisser aucune trace. Mais là encore, ce fut inutile. La femme s'écria
« En arrière, vous tous !» « Regardez-moi donc ça !» Comme si ça suffisait pas que ce gros tas de Carole soit un vrai géant face à ce maigrichon. Faut encore que 5 ou 6 hautes gueux viennent lui donner la main pour jouer les héros et les glorieux écrasemômes. Moi, je tenais le bras du mioche et le gros Ruffiron lui a écrabouillé le nez pendant qu'il pouvait pas se rebiffer, dire Alain. Attention, moi, je lui tenais quand même le pied, faudrait voir à pas m'oublier, dira l'autre. Et ce lourdeau de Ruffiron ajoutera, je pouvais pas l'avoir sur mon terrain. Alors forcément, mes gars l'ont coincé, et avec l'aide de tous les 6, j'ai pu me faire mousser. Mais Soura,
dit Ruffiron, gémissant presque,
je l'avais ben dit qu'il pouvait cogner le premier, même que t'avais peur des coups puissants de ses petits bras, pas vrai, tête de pioche? Allons donc, laisse-le donc partir, et vous autres dépêchez-vous de disparaître au fond de votre trou, si qu'on veut bien encore de vous, et vous ferez bien d'espérer qu'on oubliera votre glorieux exploit du jour. Parce que je vous garantis qu'on l'oubliera pas, et que je me dépêcherai de le raconter partout, si jamais vous me fichez encore une fois en rogne comme aujourd'hui. »
Ils se hâtèrent de détaler, en troupeau, la tête basse, sans demander leur reste. Jean Dibal les regarda s'enfuir, puis tourna de nouveau les yeux vers la femme. Elle était vêtue d'une chemise et de pantalons, les pieds chaussés de souliers grossiers. Son visage était mouillé de sueur, et elle respirait avec bruit. Elle avait le nez plutôt fort, les seins lourds autant qu'il put en juger sous l'étoffe lâche, et ses bras étaient musculeux. Mais après tout, les femmes choyennes travaillaient au champ aux côtés de leurs hommes. Elle le regarda sans ciller, les mains sur les hanches.
« Eh ben, chercheur, qu'est-ce qu'on attend? Retournez donc dans votre maison des chercheurs. Vous auriez donc peur? Faut-il vous faire un brin de conduite ?»
Jean Dibal percevait l'odeur de transpiration qui émanait de ses vêtements manifestement pas lavés de fraîche date. Mais en de telles circonstances, il eût été discourtois de manifester quelque répulsion.
« Je vous remercie bien, mademoiselle Soura.
Je m'appelle Novi, »
dit-elle, bourrue.
« Soura Novi. » Et pouvait dire Novi tout court. Pas besoin d'en rajouter.
« Je vous remercie, Novi.
Vous m'avez été d'un grand secours.
Et vous me feriez bien plaisir de me faire un brin de conduite, non point que j'aurais peur, mais pour le plaisir de la compagnie. »
Et il s'inclina gracieusement, comme il l'aurait fait devant une jeune femme à l'université. Novi rougit, parut hésiter, puis essaya de copier son geste.
« Tout le plaisir, c'est pour moi »,
dit-elle enfin, comme si elle cherchait les mots susceptibles à la fois d'exprimer son contentement, tout en lui donnant un air cultivé. Ils marchèrent ensemble. Jean Dibal savait parfaitement que chacun de ses pas tranquilles accroissait encore plus de manière impardonnable son retard à la réunion de la table. Mais à présent qu'il avait eu le temps de repenser à la signification de ce qui venait de se produire, il prenait un plaisir glacé à laisser s'accumuler son retard. Les bâtiments de l'université se dressaient devant eux lorsque Soura s'arrêta et dit en hésitant
« Maître chercheur !»
Apparemment, songea Jean Dibal, à l'approche de ce qu'elle avait appelé la maison des chercheurs, elle devenait plus polie. Il réfréna l'envie soudaine de lui répondre « Alors on cause plus à son pauvre mioche ?» Mais la chose l'aurait gêné bien inutilement. « Oui, Novi ?»«
C'est-y beau et luxueux chez les chercheurs ?»«
C'est joli. » »«
J'ai rêvé une fois d'y être. Et... d'être une chercheuse. »
Un jour, dit poliment Jean Dibal, je vous montrerai comment. Le regard qu'elle lui adressa prouvait à l'envi qu'elle ne prenait pas cela pour une simple politesse. Elle dit
« Je sais écrire. J'ai appris par le maître d'école. Si je fais une lettre pour vous,
elle essayait de prendre un ton dégagé.
Qu'est-ce que je dois marquer dessus pour qu'elle vous arrive ?»
Mettez simplement « Maison des orateurs, appartement 27 » et elle me parviendra. Mais il faut que j'y aille, Novi. Il s'inclina encore, et là encore elle essaya d'imiter son geste. Ils s'éloignèrent chacun de leur côté, et Jean Dibal cessa bientôt de penser à elle. Il songeait à présent surtout à la réunion de la table, et en particulier à l'oratrice Delora de l'Army. Ses pensées n'avaient rien d'aimable.